Chapitre 17. Abram devient Abraham, Saraï devient Sarah. L'alliance de Dieu avec Abraham. Et Abram était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abram et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Verset 1. Ce passage a une signification d'une grande portée. Il est évident que, lorsque Abram accepta l'expédient de Saraï, il ne marchait pas devant la face du Dieu Tout-Puissant. La foi seule nous rend capables de vivre librement devant la face de Dieu. L'incrédulité introduit toujours plus ou moins le « moi », les circonstances, les choses secondaires, et nous prive ainsi de la joie, de la paix et de la sérénité qui sont le partage de celui qui s'appuie sur le bras du Tout-Puissant. Marche devant ma face. La vraie puissance consiste à marcher devant la face du Dieu fort. Pour cela, il faut que le cœur donne à Dieu la première place. Si nous nous appuyons sur les choses d'ici-bas, nous ne marchons pas devant Dieu. Il est de la plus haute importance pour nous que nous sachions devant qui nous marchons et quel est l'objet que nous poursuivons. Le seul moyen de s'élever au-dessus du monde, c'est de marcher par la foi. Parce que la foi remplit la scène si complètement de Dieu qu'il ne reste plus de place pour le monde. Si Dieu remplit tout le champ de ma vue, tout autre objet disparaît. Et je puis dire avec le psalmiste : Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas ébranlé. Psaume 62, versets 5 et 6. Il en est de même en ce qui concerne les détails de notre vie de tous les jours qu'en ce qui concerne le salut. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il faut que ce soit lui qui soit réellement devant nous et lui seul. Il ne suffit pas que nous dépendions de Dieu en parole, tandis que, de fait, notre cœur se repose sur les choses d'en bas. Dieu mettra tout en lumière, il éprouvera les cœurs. Quand nous cessons de nous appuyer sur les choses d'en bas, alors, et alors seulement, nous sommes dans les dispositions voulues pour que Dieu puisse agir. Et quand Dieu agit, tout va bien. Il ne laisse rien inachevé. Il règle parfaitement tout ce qui concerne ceux qui mettent en lui leur confiance. Sa souveraine sagesse, sa toute-puissance et son amour infini agissent ensemble. Rien n'est trop grand ou trop petit pour le Dieu Tout-Puissant. Et ainsi nous n'avons aucune raison de nous inquiéter de quoi que ce soit. C'est la bienheureuse position où nous trouvons Abraham dans ce chapitre. Dieu lui dit : Abandonne-moi tout, et je pourvoirai à tout. Tes plus chères espérances sont parfaitement assurées par l'alliance du Dieu Tout-Puissant. Alors Abraham tomba sur sa face. Verset 3. Bienheureuse position, la seule qui, devant le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, possesseur de toutes choses, conviennent à l'homme. Et Dieu parla avec lui. Verset 3. C'est quand l'homme prend sa juste place devant lui que Dieu peut lui parler. La position que prend ici Abraham est l'expression de l'abaissement complet en la présence de Dieu. Il se tient devant Dieu dans le sentiment de sa faiblesse et de son néant, et cet abaissement ouvre la voie à la révélation de Dieu lui-même à son âme. C'est quand la créature se tient ainsi devant Dieu que Dieu peut se montrer tel qu'il est, dans toute la gloire de sa personne. Il peut se révéler et permettre à l'homme d'adorer en présence de cette révélation. Mais, jusqu'à ce que l'homme prenne la place qui lui convient, Dieu ne peut pas déployer son caractère. Quelle différence entre les positions d'Abraham dans le chapitre précédent et dans celui-ci. Là, il agissait. Ici, il adore. Là, il avait recours à ses propres combinaisons et à celles de Sarah. Ici, il s'abandonne entre les mains de Dieu avec tout ce qui le concerne. Il lui permet ainsi d'agir. C'est pourquoi Dieu peut dire : Je te ferai, je t'établirai, je te donnerai, je te bénirai. Maintenant, Dieu seul et son œuvre sont en cause. La circoncision. Il faut désormais que tous les mâles de la famille d'Abraham portent dans leur corps le sceau de l'alliance. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 11. On ne manquera point de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera en votre chair comme alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis, qui n'aura point été circoncis en la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples. Il a violé mon alliance. Versets 13 et 14. Le chapitre 4 de l'Épître aux Romains nous apprend que la circoncision était le sceau de la justice de la foi. Verset 11. Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Verset 3. Dieu le tient pour juste, en raison de sa foi, puis il met son sceau sur lui. Le sceau par lequel maintenant le croyant est scellé n'est pas, comme alors, une marque en la chair. C'est le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Tout est fondé sur la relation du croyant avec Christ et sur sa parfaite identification avec lui dans la mort et la résurrection. Et vous êtes accompli en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité, en qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ, étant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble, par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Colossiens 2, versets 10 à 13. Ce magnifique passage nous apprend ce que la circoncision représentait réellement. Tout croyant est associé de façon vivante avec celui qui, par sa croix, a accompli entièrement et parfaitement l'œuvre de son salut. Il n'y a pas un seul de ses péchés, ni un principe de péché dans sa nature, dont Christ n'ait porté le jugement sur la croix. Maintenant, les croyants sont envisagés comme étant morts avec Christ, comme ayant été couchés dans la tombe avec lui et ayant été ressuscités avec lui. Ils ont été rendus agréables en lui, leurs péchés, leurs iniquités, leurs transgressions, leur inimitié ayant été complètement ôtée par la croix. La sentence de mort est inscrite sur la chair, mais le croyant possède une vie nouvelle, unie à Christ ressuscité dans la gloire. Quel repos, quel parfait repos le cœur et la conscience trouvent ici. Quelle délivrance complète pour une âme fatiguée et chargée. Tous nos péchés sont ensevelis dans la tombe de Christ. Tout ce que l'œil pénétrant de Dieu a pu découvrir de péché en nous, il l'a placé sur la tête de Christ lorsqu'il était cloué à la croix. Ce fut alors, et sur cette croix, que Dieu jugea Christ au lieu de nous juger pour toujours en nous plongeant dans les peines de l'enfer. Et maintenant, nous sommes scellés, non pas d'un sceau extérieur dans notre chair, mais du Saint-Esprit. Toute la famille de la foi est scellée de ce sceau. La valeur du sang de Christ est telle que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, peut venir faire sa demeure en chacun de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus.